Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le droit à l'hébergement pour les enfants n'est pas appliqué, c'est ce que déplore le collectif Jamais sans toi. Le nombre d'enfants sans abri a quasiment doublé en un an. Anne-Sophie Huchard, enseignante et membre de ce collectif, sera l'une de nos invitées. 14 septembre 1982, 14 septembre 2022, cela fait 40 ans, l'assassinat du président libanais Bachir Gemayel. 6 personnes se sont noyées lors du naufrage d'un bateau en provenance du Liban. Les candidats à l'exil tentaient de rejoindre l'Italie. La première ministre Elisabeth Borne a présenté l'état de la situation énergétique en France ainsi que son plan pour réduire la facture des ménages. L'augmentation de la facture de gaz et d'électricité sera limitée à 15% en janvier et février prochains. Gros plan dans votre édition sur cette crise de l'énergie, nous l'évoquerons avec Karim Ziabat, élu à Cergy. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, extrait dans votre édition. La Tunisie est l'invité d'honneur de la 12e édition du Salon international du livre de Palestine, un salon qui se tient jusqu'au 24 septembre à Ramallah. Les associations tirent la sonnette d'alarme et appellent à la mobilisation face à l'augmentation du nombre d'enfants sans abri en France. Le collectif Jamais sans toit participe régulièrement aux occupations des écoles pour héberger des élèves à la rue et leurs familles. Collectif qui, avec la FCPE et le collectif des associations unies, a lancé un réseau national d'aide aux enfants sans toit. Anne-Sophie Huchard, enseignante et membre du collectif Jamais sans toit.
Concernant les élèves sans abri, donc il y avait eu le baromètre de l'UNICEF et de la Fédération des acteurs de la solidarité qui est sortie le 1er septembre et qui montre une augmentation là du nombre d'élèves sans toit, c'est-à-dire non seulement sans toit, mais ouais, qui ont appelé le 115 et qui n'ont pas eu de réponse, donc qui ont dormi à la rue, une augmentation de plus de 80% entre le mois de janvier 2022 et le mois d'août 2022. Donc en 6 mois, une augmentation de plus de 80% du nombre d'enfants sans solution apportés par le 115. Donc on voit que la situation, elle se dégrade vraiment fortement. Au niveau de la réalité du terrain, nous à Lyon, là, à la rentrée, on a de nombreuses situations qui remontent et on voit qu'en effet, le droit à l'hébergement pour les enfants n'est pas appliqué.
Et que demandez-vous? L'application, bien entendu, de ce droit, mais comment cela doit se réaliser?
Ouvrir des places d'urgence et puis aussi, bien sûr, réfléchir d'une manière générale à la politique du logement en France, puisque si l'hébergement d'urgence est saturé, c'est aussi parce que les familles n'accèdent pas au logement social ou au logement très social pour différentes raisons, pour des raisons de papier. Il y a des familles qui sont en attente de régularisation et qui ne peuvent pas accéder à un logement. Donc nous, on demande la régularisation des personnes pour qu'elles puissent accéder au travail et au logement, et aussi désengorger l'hébergement d'urgence. Ça, c'est une première solution. Et puis, tant que ce n'est pas mis en place et tant que le logement reste inaccessible pour les familles, il faut des cases d'hébergement. On ne peut pas se contenter de dire c'est compliqué, ça coûte cher, on va pas le faire. Non, c'est la Convention d'aide internationale du droit des enfants. Les enfants ont droit à un abri. On ne peut pas grandir en étant à la rue. En France, en 2022, ça semble ahurissant. Le nombre d'enfants qui sont contraints de passer la nuit dehors parce qu'on n'a pas mis les moyens d'hébergement, de place d'hébergement. Et on demande aussi que les solutions d'hébergement qui sont apportées pour les enfants soient adaptées à une vie de famille. Les réponses qui sont apportées généralement, le plus souvent, c'est des places de nuitée d'hôtel. Enfin, vivre à l'hôtel pour un enfant, ça veut dire des difficultés pour l'alimentation parce qu'on peut pas se faire à manger, ça veut dire vivre dans une grande promiscuité, dans une seule chambre avec toute la famille, ça veut dire aussi être loin de l'école, des trajets qui sont très très fatigants. On sait que c'est très coûteux pour l'État, cette politique de nuitée d'hôtel, ça coûte très cher et c'est pas adapté pour le développement des enfants. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir et à mettre en place pour améliorer à la fois le nombre de places et la qualité des places qu'on propose aux familles.
Vous êtes à Lyon. Quelle est la marge de manœuvre de la municipalité sur cette situation?
L'hébergement et le logement, c'est la prérogative de l'État. Donc c'est la préfecture qui est en charge d'héberger les familles, donc via le 115. À Lyon, c'est la maison de la veille sociale qui oriente les familles. Que la municipalité, elle a lancé à Lyon le plan zéro enfant à la rue, qu'elle a fait, c'est de voter, de mettre à disposition des immeubles vacants ou qui sont en attente de changement d'usage, voilà, de les mettre à disposition de la préfecture pour ouvrir des places d'hébergement. Donc ça permet de partager le coût, on va dire, parce que le foncier est mis à disposition par la ville. Et c'est l'État qui paye tout ce qui est l'encadrement logistique de la vie quotidienne sur un foyer d'hébergement. Ça, les villes ont la main là-dessus sur le foncier, le bâti dont elles sont propriétaires. Elles peuvent jouer là-dessus. Après, la ville de Lyon a aussi mis des familles à l'abri à l'hôtel en attendant que l'État prenne le relais. Donc ça, c'est quelque chose que les villes peuvent faire. Les villes, en fait, elles ont quand même des compétences très larges. Elles peuvent faire beaucoup de choses. Après, les villes, ce qu'elles demandent, c'est que l'État prenne en charge ce qui est la compétence. Voilà, c'est sa compétence. Donc les villes, elles ne veulent pas faire plus que ce qu'elles ont à faire, entre guillemets. Donc voilà, c'est aussi une question de justice sur le territoire, hein, d'équité. L'État doit la même chose à toutes les personnes en France, et on peut pas se contenter de dire à tel endroit c'est super, la mairie est de bonne volonté, et puis à tel autre non. L'État doit vraiment intervenir pour que partout, sur tout le territoire, il y ait des moyens pour l'hébergement d'urgence quand les familles sont à la rue, et puis après réfléchir aussi au logement d'une manière générale et au logement social.
Et votre collectif Jamais sans toi est à l'initiative d'un réseau national d'aide aux élèves sans-abri. Est-ce que vous pouvez nous faire part de l'objectif de ce réseau, dont fait partie également la FCPE ou encore le collectif des associations unies?
L'objectif, c'est de se coordonner, hein, de pouvoir unir nos forces, hein, on va dire, sur le terrain. L'idée, c'est aussi de visibiliser cette situation, hein, de s'appuyer sur ces grosses associations que sont le CAU, c'est un collectif de 39 associations, dont la Fondation Abbé Pierre. La FCPE, c'est une fédération de parents d'élèves qui est vraiment implantée partout en France. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer sur ce maillage pour essaimer les mobilisations citoyennes, hein, comme nous, on a fait à Lyon, de se mobiliser dans les écoles, les équipes enseignantes et les parents d'élèves, pour dire que c'est pas une fatalité, hein, les enfants à la rue, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, hein, puisque dans la loi, toute personne a droit à un hébergement d'urgence, et toute personne en détresse qui le demande doit être hébergée. Donc a fortiori, les familles et les enfants sont largement, on va dire, il n'y a pas de priorité, hein, puisque c'est valable pour tout le monde, mais c'est vrai que les enfants à la rue, c'est quelque chose qui touche. Quand au quotidien on est enseignant et que dans sa classe on a un élève qui rentre et qui n'a pas de maison, donc qui va dormir dehors, ça touche particulièrement et on ne peut pas rester insensible. Donc c'est vrai que c'est des leviers de mobilisation, les parents d'élèves et les enseignants, pour visibiliser cette situation, interpeller les autorités pour qu'une politique réelle d'hébergement se mette en place. Donc ce qui se passe, c'est que nous, quand on occupe les écoles, on met à l'abri les familles, mais surtout, on médiatise la situation et les politiques se saisissent de cette question, alors que c'est vrai que sinon, c'est une question qui peut rester complètement invisible. Donc l'objectif de ce réseau, c'est vraiment de pouvoir mettre sur la place publique la question des enfants sans toit et de dire aux politiques de mettre en œuvre une vraie politique, des moyens, que ce soit le nombre de places et la qualité des places qu'on offre pour les enfants.
Et cela concerne combien d'élèves aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise?
Là, depuis la rentrée, les situations qui nous sont remontées, c'est les situations de 25 familles sur la métropole de Lyon. 25 familles qui sont à la rue, donc ça représente 67 enfants. Ça, c'est des situations que nous, on connaît, hein, qu'on a recensé à Jamais sans toi. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses situations qui restent inconnues, soit parce que les enfants ne sont pas scolarisés, soit parce que les établissements n'ont pas repéré que les enfants étaient sans abri, soit parce que ça ne nous est pas remonté au niveau de Jamais sans toi. Donc 67 enfants, c'est les situations connue à ce jour après 10 jours d'école.
Anne-Sophie Huchard, enseignante, membre du collectif Jamais sans toi. 14 septembre 1982, 14 septembre 2022, il y a 40 ans, l'assassinat du président libanais Bachir Gemayel. Il a été tué 3 semaines après avoir été élu président de la République, avant même d'avoir pu prêter serment. Bachir Gemayel a été tué par une bombe lors d'une réunion, un attentat qui a fait une 30aine de morts. Un nouveau drame de l'immigration clandestine, 6 personnes dont des enfants se sont noyées lors du naufrage d'un bateau en provenance du Liban. Les candidats à l'exil tentaient de rejoindre l'Italie. Le naufrage s'est produit au large des côtes du sud-ouest de la Turquie. Les gardes-côtes ont indiqué qu'un total de 73 migrants répartis sur 4 canots de sauvetage ont pu être secourus. 2 Palestiniens et un officier israélien ont été tués ce mercredi lors d'échanges de tirs. Cela s'est passé dans la région de Jénin, en Cisjordanie occupée. La première ministre française, Elisabeth Borne, a présenté l'état de la situation énergétique en France ainsi que son plan pour réduire la facture des ménages. L'augmentation de la facture de gaz et d'électricité sera limitée à 15% en janvier et février prochains. Sans action du gouvernement, la première ministre souligne que les prix du gaz et de l'électricité seraient plus que doublés. Gros plan sur cette crise de l'énergie. Karim Ziabat, élu à Cergy en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté, l'invité de Pluriel à 19h et 23h, extrait de cette émission.
Quand on voit aujourd'hui l'augmentation des tarifs qui débute déjà et qui va forcément s'accentuer dans les semaines et les mois à venir, forcément le pouvoir d'achat va en pâtir. Donc personne n'est prêt aujourd'hui à assumer cette hausse des tarifs. Mais malheureusement, nous n'avons pas vraiment le choix face à cette hausse. Et donc, il y a des solutions. Les solutions, c'est celle de l'adaptation. L'adaptation, elle est possible pour certains et pour certaines. Mais malheureusement, pas pour tout le monde. Vous avez parlé, effectivement, à juste titre, des collectivités. Moi, je suis directeur de cabinet dans une commune où, justement, nous avons décidé de nous adapter. Et donc, on a des mesures très concrètes qui sont, par exemple, la baisse des températures dans les bâtiments publics. Et donc, dans les bureaux, au lieu qu'il fasse 21 degrés, ben, à partir de demain, il fera 19 degrés dans les gymnases, dans les écoles. Et donc, c'est des sacrifices qui sont faits pour à la fois faire baisser les factures d'électricité et aussi pour contribuer à l'effort. Là où c'est plus compliqué, c'est chez les Françaises et les Français qui vivent parfois déjà dans des passoires thermiques, dans des logements qui sont très peu isolés, très mal isolés, et qui vivent déjà le froid de manière régulière tous les hivers et qui vont devoir encore faire plus d'efforts.
Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de bénéficiaires du chèque énergie ?
Oui, très clairement, aujourd'hui, le chèque énergie touche qu'une infime partie des personnes. On est sur un seuil de 10 000 euros de revenus annuels. Je crois que le ministre de l'économie a évoqué une piste, une réflexion en tout cas, pour que le chèque énergie touche un plus grand nombre de personnes dès 2023. Moi, je crois que c'est une urgence. Il faut aller vite, très rapidement. Aujourd'hui, il y a quand même un chiffre qui est assez frappant, c'est que 10 millions de Françaises et de Français vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est des gens qui, aujourd'hui, bénéficient de revenus inférieurs à 1 100 euros par mois. Aujourd'hui, avec moins de 1 100 euros par mois, on n'est même plus dans la survie. On est dans un niveau de vie qui est presque rudimentaire, avant même qu'on ait cette explosion des prix. Et quand aujourd'hui on voit l'inflation, quand on voit l'évolution des prix de l'énergie, c'est des gens qui ne vont plus réussir à vivre. Nous, on le voit aujourd'hui dans les collectivités, c'est des gens qui viennent très régulièrement au CCAS demander de l'aide, à la fois pour justement avoir des chèques énergie, pour avoir de l'aide alimentaire, et ça, c'est des choses et des situations qui ne sont plus vivables dans les quartiers.
Karim Ziabat, les Français vont devoir vivre aussi avec des risques de pénurie dans les supermarchés en raison de la guerre en Ukraine, mais aussi en raison de la sécheresse qui va avoir des conséquences sur la production de certains produits alimentaires, sans oublier aussi la chaîne du froid qui coûte beaucoup en termes d'utilisation d'électricité et de gaz. Comment gérer une telle situation anxiogène ?
C'est effectivement extrêmement compliqué, c'est-à-dire que d'un côté on entend l'explosion des tarifs et de l'autre on voit que dans les supermarchés les rayons ne sont pas pleins comme on a pu le connaître pendant des années. Moi je crois que d'abord il faut dire les choses très clairement. On a des gens qui aujourd'hui profitent de cette crise pour augmenter leurs tarifs, pour créer justement des pénuries et pouvoir bénéficier de la crise. C'est ce qu'on appelle les profiteurs de la guerre, les profiteurs de crise. Et d'ailleurs, le président de la République les avait déjà dénoncés à plusieurs reprises. Et quand aujourd'hui on entend les interventions de quelqu'un comme Monsieur Leclerc qui intervient régulièrement, il explique bien que quand on a des pénuries de cacao, il n'y a aucun lien avec la crise ukrainienne. Et donc c'est qu'à un moment, on a des gens qui ont décidé de créer ces pénuries pour pouvoir justement jouer sur les prix. prix et très concrètement profiter de la crise en se faisant plus d'argent. Donc il faut d'abord cibler là où on a des gens qui sont des profiteurs de crise pour pouvoir réguler le marché, parce que le marché a besoin de régulation. Et tant qu'on laissera le marché avec des déviances qui ne répondent qu'à l'offre et la demande, forcément, on va avoir des choses vicieuses comme cela. Donc maintenant, il faut que l'État puisse réguler le marché.
Karim Ziabat, élu à Cergy, en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h, une émission présentée par Loïc Barrière. La Tunisie est l'invité d'honneur de la 12e édition du Salon international du livre de Palestine, un salon qui se tient jusqu'au 24 septembre prochain à Ramallah. 350 maisons d'édition de 16 pays sont au rendez-vous. Après le Salon international du livre de Palestine, la Tunisie sera également à l'honneur au Salon international du livre de Riyad en Arabie Saoudite, salon qui aura lieu du 29 septembre au 8 octobre prochain. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.